La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, mercredi, troisième jour de notre série consacrée à La Fontaine dans la compagnie des auteurs, une émission qui vous est proposée par Laurence Genepin, Laurence Millet, Chloé Casmarek, Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault et Emmanuel Morse-Duncan. Retracer la biographie de La Fontaine, c'est tenter de démêler l'image que ses fables nous ont donnée de lui, de sa vie, celle qu'il a réellement vécue et que finalement on connaît assez peu. On le dit dans la lune, bon vivant, dépensier et volage, infidèle à sa femme, quoique nous dit-on davantage par étourderie que par libertinage, mais au fond, peu de choses sont réellement prouvées dans cette réputation. Nous l'avons vu lundi, c'était avec Patrick Dandré dans une émission à réécouter en podcast. Hier, nous nous sommes intéressés aux contes et nouvelles de La Fontaine avec Mathieu Berman, romancier et agrégé de lettres. Il nous a expliqué l'importance du contexte mondain chez le fabuliste. Enfin, demain, c'est le poète Jacques Reda qui sera dans ce studio. Il nous parlera de son La Fontaine à lui, exercice d'admiration auquel il s'est déjà adonné pour les éditions Buchet-Chastel et leur collection Les auteurs de ma vie. C'était en 2016. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour parler des fables de Jean de La Fontaine, nous sommes en compagnie d'Olivier Leplâtre, professeur de littérature française du 17e à l'université Lyon 3, auteur notamment d'un commentaire des fables publié chez Folio en 1998, et également de Laisser le pouvoir et la parole dans les fables de La Fontaine aux presses universitaires de Lyon en 2002, et enfin plus récemment, en 2011, c'était avec Sophie H. et Romain Benigni d'un ouvrage sur les fables qui s'adressait plus particulièrement aux candidats au concours de l'agrégation et du CAPES, paru dans la collection Clé Concours des éditions Atlante. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
Je pense que les premiers textes qui m'ont frappé, c'est les récitations qu'on apprenait et qui étaient surtout, ceux qui m'ont frappé en tout cas, c'est surtout les textes de La Fontaine. Très vite, parce que ça, dès la petite classe, enfin, pas la maternelle, mais dès qu'on avait 5-6 ans, on apprenait par cœur des fables de La Fontaine assez incompréhensibles pour les enfants.
Sans les comprendre. Vous comprenez un peu l'histoire quand même, sans peut-être comprendre la langue de toutes les façons.
Sans comprendre la langue, en comprenant un peu l'histoire, oui, pour le chêne et le roseau par exemple, ou pour le loup et l'agneau. Pour le loup et l'agneau, bien sûr, là tous les enfants comprennent. Mais tout à coup, avec ces phrases-là, nous arrivait à nous autres petits-enfants à l'époque le fait littéraire lui-même, enfin la très grande littérature. Et je crois que c'était quelque chose d'inestimable, enfin donner à des enfants sans qu'ils le comprennent des textes de cette ampleur était certainement quelque chose de tout à fait positif.
Pierre Michon, au micro d'Olivier Germain-Thomas en 1994. Bonjour Olivier Leplâtre.
Bonjour.
Les fables de La Fontaine, c'est, comme le sous-entend Michon ici, la grande littérature à la portée de tous, à la portée des enfants, mais à la portée également de tous ceux qui souhaitent s'y plonger et s'y replonger tout au long de leur vie.
Oui, c'est sûr que La Fontaine fait partie du patrimoine littéraire français. Hein. C'est presque un lieu de mémoire, hein, La Fontaine. Mais c'est très sensible ce que dit Pierre Michon à propos de la double lecture finalement, cette approche des textes par les enfants, une approche dont le sens est encore un peu vague, encore un peu incertain, mais qui passe par la langue, par la magie de la langue, le rythme de la langue, cette espèce de charme inestimable de la langue, et puis ce déploiement à l'âge adulte du sens, ou des sens, puisque peut-être on en reparlera évidemment, c'est... Les fables de La Fontaine sont des textes plus retors qu'il n'y paraît.
Mmh. Alors on va parler justement avec vous du fablier, parce qu'en effet, Jean de La Fontaine avait dédié sa vie à la réécriture et l'invention de petits récits de rien, où l'on trouve toujours quelque chose à glaner. Et c'est peut-être ça d'abord La Fontaine, en tout cas c'est ce que vous sous-entendez, Olivier Le Plâtre, c'est un glaneur.
C'est un glaneur, oui. C'est-à-dire que, bien sûr, la fable existe depuis fort longtemps. Elle est très courante dans l'Antiquité, Ésope, Phèdre, et puis enfin, ça fait partie des cultures du monde. Et La Fontaine a cette idée extraordinaire de se ressaisir de ce corpus de textes, qui était pour l'essentiel un corpus diffusé par des textes, par des éditions érudites, et puis diffusé par l'école, un petit genre un peu marginal. Il s'en ressaisit pour le constituer la fable en genre poétique à part entière.
Donc ça, c'est une originalité La Fontaine.
C'est vraiment l'originalité de La Fontaine, c'est son parti pris extrêmement fort. Il reprend les textes, il se sert des archives de textes qu'il a en tête. Hein, et donc il utilise Ésope, Phèdre et d'autres. Hein. Par exemple, pour le second recueil de 1678, il vient ajouter des textes orientaux. Donc il prend ça, ces sources-là, et puis il se les approprie et il les accommode. C'est-à-dire que il ajoute ce qu'il appelle des traits, des détours, il les arrange, il les recompose, parfois les mélange, parfois contredit la source première. Enfin bref, il fait de ces sources de véritables textes.
La première parution, c'est 1668.
Oui, 1668, il y a trois grosses éditions des Fables de La Fontaine. En alternance, je crois que Mathieu Berman en a parlé, en alternance avec les contes. Hein, La Fontaine commence par les contes et puis ensuite il publie des fables. Et à intervalles réguliers, 1668, 1678 et 1692-93 pour le dernier recueil, c'est-à-dire en fait le livre 12, hein, qui est dédié au duc de Bourgogne.
Est-ce qu'il y a une évolution très marquée entre les fables du début et celles de la fin ?
C'est difficile à dire, on reconnaît des constantes, des dominantes et puis sans doute en effet des inflexions. Peut-être davantage de mélancolie au fur et à mesure des textes, au fur et à mesure des éditions. Il me semble que le livre 12, par exemple, est empreint de plus de tristesse, de plus de lassitude, peut-être de distance vis-à-vis du monde. Le livre 1 n'est pas très tendre non plus déjà avec le monde. Hein. La cigale et la fourmi qui ouvre le recueil de 1668 est une fable particulièrement cruelle. Mais sans doute, voilà. Et puis alors, bon, peut-être trouve-t-il vraiment son rythme au fur et à mesure des éditions. Je veux dire par là qu'il utilise vraiment les textes pour les mélanger. Il se libère peut-être de plus en plus de ses sources en les croisant, en les entretissant de façon à composer des textes éminemment personnels. Mais la formule de la fable de La Fontaine, cette formule-là, il la trouve en réalité dès 1668. Hein. Il la peaufine, il l'infléchit, il l'enrichit, mais en somme, tout est déjà là.
Il y a des illustrations dès le départ.
Oui, c'est une chose qu'on oublie. On l'oublie aussi parce que les éditions modernes ne comportent souvent pas ces illustrations, ces images. Mais en effet, dès 1668, les fables sont accompagnées de petites gravures qui sont l'œuvre de François Chauveau. François Chauveau, c'est un graveur extrêmement célèbre au XVIIe siècle. Et chaque fable, en réalité, est illustrée par une image. Et on oublie ça parce que ça compte énormément en fait pour la lecture. C'est-à-dire qu'on commence par voir une fable de La Fontaine. On commence par la voir parce qu'on regarde d'abord une image. Et puis ensuite, on lit ce que la fable dit. Et évidemment,
la voit d'une autre manière.
Et on la voit d'une autre manière, comme on peut voir aussi d'une autre manière le texte en relation avec l'image. Il y a un dialogue qui s'effectue entre texte et image qui est extrêmement riche en réalité.
Alors vous, ce qui vous intéresse, c'est évidemment toutes les fables, mais c'est un thème en particulier qui vous retient, c'est la question du pouvoir. Le pouvoir et la parole dans les fables, chez celui qui a justement titré l'une de ses fables, le pouvoir des fables. Parce que vous dites que le monde lafontanien est l'expression du travail de la force. Alors, expliquez-nous un petit peu ce qui vous a donné envie de vous attacher à cette question-là, qui est la question du pouvoir, précisément dans les fables de La Fontaine, Olivier Le Plâtre.
Oui, alors pour dire peut-être un mot sur le projet qui m'a animé, la critique lafontainienne a toujours été très attentive, et à juste titre, hein, attentive à la gaieté des fables, à l'enjouement, au divertissement, à l'humour, etc. Donc La Fontaine souriant. Et j'ai pensé que peut-être, mais je n'étais pas le premier à le faire, hein, d'autres l'ont fait avant moi, mais il me semblait important de marquer un certain pessimisme de La Fontaine, ce qu'on pourrait appeler son anthropologie pessimiste, son anthropologie mélancolique. Et donc, regarder les fables un petit peu sous un autre angle, en observant comment la banale rencontre des animaux devient en réalité une véritable épreuve de force, par exemple. Mmh. Alors, je citais tout à l'heure la cigale et la fourmi, mais enfin voilà, ça commence par un rapport de force extrêmement marqué, par une tension très, très impressionnante. Et ce jeu des tensions, ce jeu des forces, c'est un jeu qui ne cesse de courir au fur et à mesure des fables. Je crois qu'en réalité, ce qui explique ces tensions, ce qui explique ce jeu des forces, c'est la question du désir. C'est-à-dire que pour La Fontaine, l'homme s'explique par son désir, ou plutôt il faudrait dire par ses désirs.
Par tous les types de désirs.
Par tous les types de désirs, contradictoires, désordonnés, qui provoquent en permanence une forme d'agression les uns envers les autres. Enfin bref, chez La Fontaine, c'est souvent quand même l'état de nature comme état de guerre. Hein. L'homme est un loup pour l'homme, hein, dit-il dans Les Compagnons d'Ulysse, en empruntant la formule à Hobbes et avant lui à Plaute.
Et alors, vous dites que le fabuliste examine la structure du pouvoir dans ses narrations et qu'il est en cela assez proche de la science politique. Vous allez jusque-là.
Oui, oui. C'est-à-dire que, bon, on peut regarder évidemment la critique que fait La Fontaine du pouvoir par le prisme de l'actualité. On peut dire, voilà, bon, il critique Louis XIV ou il critique la monarchie française. Bon, sans doute, il y a des traits, il y a des attaques, il y a des formes comme ça, un peu d'ironie corrosive envers le pouvoir. Et certainement, La Fontaine n'est pas tendre vis-à-vis de Louis XIV. Mais il me semblait plus important, finalement, de travailler sur une forme d'archéologie du pouvoir ou de généalogie du pouvoir chez La Fontaine. C'est-à-dire, je crois qu'il s'interroge, finalement, d'un autre point de vue presque supérieur à ces questions de pouvoir. Voyant comment, quelles sont les origines, finalement, ce qui fait naître les structures de pouvoir, ce qui fait que les hommes se battent entre eux, et puis au-delà de ça, comment la société s'organisant a été sur la violence, et comment cette violence se perpétue sans contrôle, sans frein.
Alors, on va creuser avec vous cette question du pouvoir, mais je voudrais d'abord qu'on entende ce que Marcel Pagnol disait d'une des plus célèbres fables de La Fontaine, La cigale et la fourmi.
De toutes les fables de La Fontaine, la plus célèbre est sans doute celle qui met en scène la cigale et la fourmi. Nous l'avons apprise en 7e. C'était pourtant un bien mauvais commencement à nos études d'histoire naturelle. La cigale n'a jamais chanté tout l'été. Elle n'a jamais été en quête du plus petit morceau de mouche ou de vermisseau, pour la raison très suffisante qu'elle n'a ni mandibule ni bouche. Et elle n'a jamais eu la moindre possibilité de subsister jusqu'à la saison nouvelle, puisqu'elle meurt le soir même de sa naissance. Pour l'entomologiste, c'est un tissu d'erreurs grossières. Il est bien surprenant qu'on force des enfants à apprendre par cœur ces absurdes inventions. Ce qui est beaucoup plus grave, c'est que l'apologue sert de base à une moralité qui est une bien vilaine leçon d'égoïsme, d'avarice et de cruauté. Cette fable devrait être chassée des programmes scolaires. Mais elle est la première du premier des 12 livres qui contiennent 100 chefs-d'œuvre. On croit toujours obscurément qu'elle doit cette place à sa valeur comme le major de Polytechnique. C'est une position très forte.
Vous croyez qu'il est dans l'ironie à ce moment-là, Marcel Pagnol ?
Je ne sais pas, mais vous savez qu'il y a des lectures, en effet, de La cigale et la fourmi qui font croire que La Fontaine défend la fourmi, mais en réalité, évidemment, chacun sait qu'il n'en est rien, que la question de la cigale et la fourmi, c'est la confrontation de deux points de vue. Et à aucun moment, d'ailleurs, le fabuliste ne parle en son nom. Hein, là, ce n'est pas lui qui dit la moralité, ce n'est pas lui qui énonce la leçon, mais c'est la fourmi, avec arrogance et certainement cruauté, hein, qui fait la leçon à la cigale. Alors que la cigale, c'est pas sa part de responsabilité dans ce qui lui arrive, sans doute, mais c'est justement le charme des fables de La Fontaine que de croiser en permanence les perspectives. C'est-à-dire, personne n'a complètement raison, personne n'a complètement tort. Le point de vue se situe quelque part entre les deux opinions.
Mais on a quand même l'impression que La Fontaine lui-même se sent quand même plutôt du côté de la cigale, parce que la cigale, c'est le poète, c'est celui qui fait le don gratuitement durant tout l'été de son chant, alors que la fourmi, qui est évidemment très pragmatique, est occupée à garder pour elle ce qu'elle pourra consommer durant l'hiver. Donc La Fontaine n'est-il pas plutôt quand même une cigale ?
Oui, oui, vous avez complètement raison. On voit bien que d'entrée, le personnage de la cigale est une sorte de projection, une sorte de double du fabuliste. D'ailleurs, très régulièrement dans ses fables, La Fontaine met en scène des personnages qui lui ressemblent, ou plutôt qui disent quelque chose de lui et de son rapport à la poésie. Des chanteurs, même le cygne, par exemple, est un personnage qui dit quelque chose du rapport de La Fontaine à la poésie. Donc il y a des personnages, en effet, qui permettent à La Fontaine de situer sa poétique à l'intérieur même des fables. En somme, les fables de La Fontaine constituent en elles-mêmes une sorte d'art poétique. Il y a bien une préface en 1668 qui pose les choses de façon très nette, hein, bien que les fables parfois nuancent les prises de position théoriques du fabuliste, mais précisément dans les fables, voilà, se remet en jeu en permanence la question poétique. Jusqu'à la fable que vous citiez tout à l'heure, le pouvoir des fables, hein, qui est une formidable mise en abîme de la question du pouvoir des fables.
Hein. Oui. Alors dans la fable, il y a toujours une rencontre, toujours deux protagonistes, et là, précisément, c'est la cigale et la fourmi, et c'est parce qu'il y a deux protagonistes qu'il ne peut pas y avoir égalité. Il y a forcément l'un des deux protagonistes qui asservit l'autre, Olivier Leprage.
Eh oui, il faut bien reconnaître que ça se passe jamais extrêmement bien quand les personnages se rencontrent dans les fables de La Fontaine. Alors il arrive quand même, par exemple dans la fable Les deux amis, que le couple puisse donner l'impression que tout de même il reste de l'humanité. Mais enfin,
de l'animalité.
Oui, alors les deux amis en l'occurrence ce sont des hommes, et quelquefois en effet il y a des animaux qui s'entendent. Mais c'est extrêmement rare. Et la plupart du temps, le mécanisme même de la rencontre provoque précisément ce choc des désirs, hein, dont on parlait tout à l'heure. Et ce choc des désirs ne peut qu'engendrer des formes d'affrontement, et parfois même la fable court jusqu'à la mort. Enfin, tout de même, c'est assez frappant que La Fontaine, si souriant, raconte des histoires qui, pour un certain nombre d'entre elles, se terminent par la mort d'un des deux personnages.
Alors, il y a des hommes, évidemment, mais il y a quand même beaucoup d'animaux dans les fables de La Fontaine. Il y a une identification de l'homme et de l'animal. Ça s'appelle, de manière très savante, la physiognomonie.
Oui.
Olivier Leplâtre, ça c'est une pratique qui n'est pas nouvelle au moment de La Fontaine.
Oui, c'est une pratique très ancienne qui remonte aussi à l'Antiquité. Et que La Fontaine réactualise, et comme tout d'ailleurs, hein, il picore, comme vous disiez tout à l'heure, il glane, il se sert de brins de philosophie qu'il mélange, et en l'occurrence, en effet, il réutilise la physiognomonie, qui est à l'époque une pseudo-science qui est un peu court. Ce qui l'intéresse en réalité beaucoup chez l'animal, je crois que ce sont deux choses. C'est d'abord la possibilité, à travers l'animal, de dire justement les désirs humains.
C'est-à-dire pourquoi ne pas prendre directement alors des personnages humains?
Oui, mais parce qu'en réalité, l'animal va permettre de dire ce qu'il y a en homme, dans l'homme, d'animal, enfin ce qui reste de bestialité en l'homme. Donc c'est une espèce d'accent qui est mis comme ça sur l'animalisation de nos désirs. Nous restons des animaux, en somme. Mais d'un autre côté, ou en même temps, l'animal permet aussi à La Fontaine de mettre en scène, de mettre en jeu tout un univers sensible, extrêmement subtil, extrêmement fin, car Pagnol tout à l'heure parlait des fautes scientifiques de La Fontaine dans la cigale et la fourmi, mais en somme ça n'a pas beaucoup d'importance, parce que quand même ça dit quelque chose malgré tout de la fourmi, ça dit quelque chose de la cigale, et quand on voit une cigale ou quand on voit une fourmi, on ne peut que penser à La Fontaine malgré tout, malgré les erreurs qu'il fait. Et c'est vrai pour la plupart des animaux qui sont, non pas exactement observés minutieusement, mais qui sont compris, qui sont animés, de sorte que finalement, entre les animaux réels et les animaux fictifs, il y a tout de même des passages.
Donc ça n'est pas qu'un procédé, c'est un rapport au monde.
Oui, c'est un rapport au monde, exactement. C'est pas un procédé, c'est pas simplement un instrument pratique, c'est pas un élément de divertissement, même si évidemment ça joue beaucoup, on ne peut que s'amuser de la présence de ces animaux, mais ça va beaucoup plus loin. C'est en effet un élément d'une représentation globale du monde.
Alors, il utilise la physiognomonie, j'aime beaucoup utiliser le nouveau mot que j'apprends, mais il ne le fait pas forcément comme le faisaient les anciens. Lui, il le fait comme on le faisait à son époque, c'est-à-dire en moraliste. Et ça, c'est important de rappeler que ce mot de moraliste, il apparaît seulement au XVIIe siècle. Il apparaît aussi avec La Fontaine, sans doute.
Oui, le terme même est plus tardif, hein, mais en effet, il y a au XVIIe siècle ce qu'on a pu appeler un moment moraliste. La Bruyère, La Rochefoucauld, Pascal aussi, et puis d'autres, beaucoup d'autres même. Et La Fontaine participe à ce moment moraliste qui correspond à une enquête anthropologique, une tentative pour comprendre de quoi l'homme est fait. Et d'ailleurs, souvent, les moralistes font remonter l'origine, le substrat de nos comportements à l'amour propre, ce que j'appelais tout à l'heure le désir, hein, chez La Fontaine. La Fontaine s'inscrit dans ce mouvement, certainement, mais comme toujours et comme avec chaque mouvement, il prend aussi ses distances, il manipule cet héritage ou ce contexte moraliste pour compliquer des situations qui pourraient paraître très simples. Il est moraliste sans tout à fait l'être. Et d'ailleurs, pour preuve, c'est l'absence ou la manière qu'il a de reconfigurer la partie tout à fait canonique de la fable, c'est-à-dire la moralité. On pourrait attendre que dans la moralité, en effet, se déclare le moraliste, à proprement parler. Eh bien non, La Fontaine déjoue ce code de la fable. Quelquefois, bien sûr, nous trouvons des moralités, mais elles sont déplacées, elles sont mises dans la bouche de certains personnages, etc. Alors, il serait moraliste, alors vraiment au sens plein du terme, dans le sens où il se sert de la littérature, de la littérature pour introduire des questions morales. Comme La Bruyère, à travers des portraits, pose des questions morales. Eh bien, la fable sert de questionnement moral.
Ça signifie que lui-même, sans doute, se posait toutes ces questions.
Oui.
Et qu'il a une réflexion, qui est une réflexion presque religieuse aussi, sur le monde, chrétienne. Il y a derrière cette recherche de morale, sans doute, une éthique chrétienne.
Oui, je ne sais pas si on pourrait aller jusque-là. Dieu est peu présent, ou en tout cas sous des formes très variées dans les fables de La Fontaine, Jupiter, etc. Bon, je sais pas exactement bien si on peut le dire pour les fables de La Fontaine. Je crois que son questionnement est précisément d'abord un questionnement. Il donne peu de réponses, ou les réponses qu'il donne sont toujours un peu provisoires. Il a l'air comme ça quelquefois d'énoncer des vérités définitives, et puis on s'aperçoit qu'à la fable suivante, ou quelques fables plus loin, il dira le contraire, ou nuancera ce qu'il vient de dire. C'est comme si la vérité était en permanence en mouvement, qu'il y avait des vérités, une pluralité de vérités, et que ce qui comptait, c'était la démarche pour tenter d'y parvenir.
La Fontaine, dans cette fable qui est très simple, mais dont le symbole est merveilleux, n'est-ce pas, le serpent et l'homme. Et le serpent fait un procès à l'homme, le serpent qui est à l'origine du monde, et avec l'homme, et qui fait à la fin un procès à l'homme, et qui lui dit, s'il y a de nous deux, s'il y a quelqu'un de mal, c'est toi. Et alors ce qui est merveilleux, c'est que La Fontaine, pour convaincre l'homme de sa perfidie, fait parler successivement la vache, le bœuf et l'arbre. Et il emploie, selon chacun des orateurs ou des plaidants, un style différent. Pour la vache, le style est direct. Pour le bœuf, le style est indirect. Et comme l'arbre, on ne voit pas comment il pourrait parler, il emploie le récit, n'est-ce pas ? Alors ce sont les trois formes, il n'y a pas d'autre manière de s'exprimer que ces trois façons. Et il les emploie sans aucune espèce de pédanterie, de pédantisme, n'est-ce pas, avec le plus grand naturel. Et je trouve ça merveilleux, car il faut le remarquer, mais lui ne le fait pas remarquer.
La compagnie des auteurs sur France Culture, c'est assez beau, Olivier Leplâtre, ce que disait à l'instant Marcel Joindeau dans un entretien avec Pierre Lost en 1965, cette attention qu'avait La Fontaine finalement à faire parler chaque animal selon un procédé qui lui est propre. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure aussi sur la vision qui était une vision du monde totale finalement de La Fontaine et qui se retrouve ici presque stylistiquement.
Oui, oui, il le dit avec un sourire et en même temps avec beaucoup de sérieux. Il dit « tout parle en mon ouvrage ». Et même les poissons. Et de fait, avec le pêcheur, le petit poisson tente de se défendre, même s'il n'y arrive pas très bien, eh bien, il parle.
Ouais.
Et en effet, ce qui est très beau chez La Fontaine, ce qui est vraiment sa manière, enfin, là, il a trouvé quelque chose de splendide, c'est sa capacité à faire parler chacun de manière différente.
Alors déjà, à faire parler les animaux.
Alors déjà, à faire parler les animaux, bien sûr.
Ça, c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît.
C'est très difficile. Et ce qui est encore plus difficile, c'est de parvenir à faire parler chaque animal de manière différente. Comme s'il y avait la possibilité d'entendre la voix du loup. Et cette voix du loup, non seulement il faudra qu'on l'entende à chaque fois que le loup parlera, mais selon les fables qui représenteront le loup, qui comporteront le loup, il faudra que chaque fable comporte aussi une sorte d'inflexion différente. On reconnaîtra le loup, mais en même temps, dans chaque fable, le loup aura sa voix propre. Et c'est vrai pour tous les animaux, c'est vrai même pour des objets qui se mettent à parler chez La Fontaine, puisque même les jardins parlent, dit La Fontaine, même les jardins. Bon. Ah oui, alors ça c'est formidable. C'est vraiment une idée extraordinaire, et puis c'est quelque chose de très sensible, quelque chose que je crois qui touche beaucoup les lecteurs, parce que ça parle à une sorte de... à ce qu'il y a en nous aussi de polyphonique, hein, à ce que nous pouvons porter de voix au pluriel en chacun de nous. Nous sommes faits de 1000 voix, et nous entendons ces voix à travers les fables de La Fontaine, qui disait par ailleurs que ces fables étaient comme des petites scènes de théâtre, hein, la comédie à 100 actes divers, disait-il. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette idée d'un petit théâtre, un petit théâtre de voix.
Et on peut imaginer qu'il a contribué à fixer dans l'imaginaire français ce que représentent pour chacun de nous les animaux.
Ah oui, certainement. Certainement.
C'est lui qui définit, qui donne une image finalement du loup, de la cigale, de la fourmi.
Alors cette image, ce qui est encore plus fort peut-être, hein, c'est que cette image, elle est aussi nuancée, elle est aussi diverse. Hein, si on prend un personnage comme l'âne par exemple, qui occupe énormément de fables chez La Fontaine, hein, ce personnage avec lequel il a beaucoup de sympathie, eh bien c'est un personnage qui se comporte de manière différente selon les fables. Et en même temps c'est bien toujours lui. Ça c'est une chose extraordinaire. Et ces différences, elles sont là, bien sûr, pour nous surprendre, pour que notre lecture soit agréable, mais parce qu'aussi, La Fontaine pense qu'il y a en chacun de nous, comme en chaque animal, une certaine pluralité.
Les animaux, c'est les animaux qu'on trouve dans la région Île-de-France. Il n'y a pas de grosses baleines, il n'y a pas de choses comme ça.
Mais il y a quand même des dauphins, il y a quand même des léopards. Non, il y a une petite ménagerie. Ouais. Il faut dire qu'à Versailles, vous savez bien, le roi avait sa ménagerie, alors on était habitué, hein, dans l'entourage royal, chez les mondains, on était habitué à, non pas tout à fait à peut-être avoir ces animaux exotiques, mais au moins en avoir des représentations et en entendre parler.
Mmh. Alors vous dites aussi, Olivier Leplâtre, que l'animal parlant, c'est une image primitive présentée comme un oxymore qui dit à la fois le même et l'autre, l'humain et l'inhumain. C'est ça aussi la fonction de la parole dans l'animal.
Et oui, parce que La grande question, et qui est aussi vraiment un débat d'époque, hein, c'est la question de l'animal parlant, la question de la parole de l'animal. Parce que si on pose que l'animal peut parler ou qu'il sait parler, alors à ce moment-là, on pose aussi l'idée qu'il est raisonnable, enfin, et ça le rapproche de l'homme. Alors, pour La Fontaine, faire parler l'animal, c'est en effet à la fois, c'est comme une espèce d'inquiétante familiarité, hein, pour prendre le concept de Freud, c'est-à-dire que l'animal nous est proche évidemment, et en même temps il n'est pas tout à fait nous, il est à distance et très près, et donc le faire parler, ça complique cette espèce de proximité étrange que nous avons avec l'animal, et d'une certaine façon évidemment ça le met en nous.
Mmh. C'est ça, chacun doit voir dans le bestiaire à la fois sa représentation, son image nue, et en même temps comprendre que cette image conjoint son portrait avec celui de l'animal.
Oui, absolument.
On va reprendre cette conversation avec vous dans quelques minutes, Olivier Leplâtre, mais pour l'instant, comme tous les jours au mi-temps de cette émission, c'est le moment de la chronique avec En compagnie des revues.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
En compagnie des revues, avec vous aujourd'hui, Alexis Broca du magazine littéraire. Merci de passer nous voir. Bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour Ludo. Bonjour.
Le magazine littéraire de ce mois-ci qui consacre un long portrait à Patrick Modiano. Et c'est de ce long portrait dont vous allez nous parler aujourd'hui.
Oui, en effet. Alors, faire un portrait de Patrick Modiano, c'est toujours une sorte de défi. Mais enfin, notre portraitiste en chef, Marie-Dominique Lelièvre, s'y est attelée. Alors, Marie-Dominique Lelièvre, vous la connaissez peut-être. Hein, c'est l'auteur de l'essai biographique « Sagan à toute allure ». Elle a forgé sa plume.
Yves Saint-Laurent également.
Voilà, Yves Saint-Laurent. Elle a forgé sa plume dans les colonnes du journal Libération. En fait, elle est spécialiste de ces portraits où on interroge à la fois, effectivement, l'intéressé, mais aussi tout son entourage afin de compléter les informations que l'on recueil auprès de l'intéressé, de commentaires complémentaires. Et ça marche formidablement bien avec Patrick Modiano, parce que justement, Patrick Modiano est insaisissable. Et en fait, dans cet article, Marie-Dominique se met en scène, tentant de décrocher un rendez-vous avec Patrick Modiano, et essuyant les réponses dilatoires de son attaché de presse chez Gallimard. En somme, on ne lui dit jamais non, mais on lui donne jamais de date de rendez-vous. Et entre deux coups de fil, elle interroge les gens qui ont connu Modiano à ses débuts. Il y a par exemple l'écrivain Myriam Anisimov, la chanteuse Françoise Hardy, pour qui Modiano a écrit la chanson « Étonnez-moi Benoît ». Et le moins que l'on puisse dire, en fait, c'est que l'image qui sort de leur déclaration tranche radicalement avec celle que nous, lecteurs, on peut tirer des romans de Modiano et aussi des quelques entretiens auxquels il a participé. En fait, nous avons tous une image de Modiano qui est fondée sur ses romans et les échos qu'ils peuvent trouver dans sa biographie. On a l'image de quelqu'un qui a été enfant juste après l'occupation, dont le père était pris par des affaires équivoques et la mère par ses engagements de comédienne. En somme, c'était un petit garçon qui était confié à ses grands-parents, à ses amis, et qui a traversé son enfance ainsi, en passant d'un appartement à l'autre. Et de là, pensons-nous, ses obsessions pour les traces, les vieux annuaires, les coupures de journaux, les numéros de téléphone avec des lettres dedans. Et à cause de ces entretiens aussi, on le voit aussi comme quelqu'un qui serait affligé d'une timidité maladive, d'un bégaiement qui serait en fait la traduction sonore de ses exigences d'écrivain. En somme, il bégayerait simplement parce qu'il serait insatisfait de la phrase qu'il est en train de produire et il reviendrait au début de la phrase pour la recommencer. Voilà.
Et alors, la coup de théâtre, et comme toujours avec Marie-Dominique Lelièvre, oui, on découvre souvent, qu'en fait, tout ce qu'on croyait était faux.
Non, c'est pas que tout ce qu'on croyait était faux, c'est que s'y ajoutent beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas. Par exemple, Marie-Dominique Lelièvre a donc interrogé Myriam Anisimov qui lui dit « Vous savez, Patrick Modiano n'était pas ce grand dadais qui ne trouve pas ses mots. Il était roué, il était naïf et malin comme un singe et il n'a jamais bégayé. » Et le portrait révèle aussi quelque chose qu'on imagine moins. Patrick Modiano avait le goût des canulars, et parfois des canulars assez équivoques. Par exemple, il demandait à Myriam Anisimov de répondre au coup de fil de Robert Gallimard et d'André Malraux pour lui dire que Patrick Modiano était absent. Il demande à Myriam Anisimov de leur dire « rappeler dans une heure ». Et ensuite, il s'assoit à côté du téléphone et il compte le nombre de rappels. Sans répondre. Françoise Hardy aussi. Françoise Hardy le croyait très pauvre, alors que Patrick Modiano a grandi dans un très grand appartement, qu'à Conti. Et Françoise Hardy explique qu'il lui arrivait de jouer les malades. Elle dit « Il était étrange, il laissait planer les doutes. Je le revois devant ma porte, imiter un geste de poitrinaire. » Bon, de toute chose qu'on imagine assez difficilement chez Modiano. Ce portrait nous apprend par ailleurs que c'était un grand séducteur, assez manipulateur par ailleurs. Je ne veux pas livrer tous les scoops qu'a levé Marie-Dominique Lelièvre, mais il y en a quelques-uns. D'accord. Et puis enfin, il y a ce côté archiviste. Ça, c'est quelque chose de plus évident et de plus documenté. Hein. On connaît le goût de Modiano pour les coupures de journaux. Vous savez, c'est le roman Dora Broder démarre comme ça, hein, par la découverte d'une petite annonce qui est parue dans le journal Paris Soir du 31 décembre 41. Et ben là, le portrait montre que ce... côté archiviste est poussé, mais jusqu'au vertige. C'est-à-dire que Marie-Dominique Lelièvre raconte la rencontre entre Laurence Tacou, qui est la directrice des Cahiers de Lerne, et Patrick Modiano. Patrick Modiano rencontre Laurence Tacou et tout de suite, il lui parle de celle qui était la tante de son second mari, Cathy Val, qui était une comédienne. Et effectivement, Patrick Modiano explique qu'il la voyait jouer lorsqu'il attendait sa mère, qui était également actrice. Puis après, Patrick Modiano parle à Laurence Tacou d'une photo qu'elle a fait paraître dans un livre consacré à Peggy Guggenheim pour lui indiquer une silhouette masculine. Et en fait, cette silhouette masculine, c'est le père de l'épouse de Patrick Modiano. Bref, Laurence Tacou résume bien les choses. On se retrouve pris dans un monde circulaire et c'est vertigineux. Et en effet, ce monde circulaire où la vie, l'œuvre, la mémoire forment une sorte de tout cohérent relié par des échos, des reflets, des passages souterrains, eh bien c'est ce qu'on peut appeler le monde d'un grand écrivain.
Donc on est presque dans l'investigation là.
On est dans l'investigation, tout à fait. Oui. Voilà. Et ceci sans avoir rencontré Patrick Modiano.
Et oui, c'est très bien, parfait. Ouais. Et La Fontaine alors, est-ce qu'on en entendra parler bientôt dans le magazine littéraire alors, ou est-ce que vous-même, vous avez envie de nous dire quelque chose à son sujet?
Alors, écoutez, on a fait un numéro il y a quelques temps sur les moralistes où on évoquait, si je me souviens bien, La Fontaine. Sur La Fontaine, je ne peux pas dire que je puisse déployer de grandes connaissances à son sujet. Cela dit, ce que vous vous disiez sur le côté très primitif de cet art de faire parler les animaux, bah, ça m'a rappelé, hier je lisais un texte de Philippe Descola sur les Amazoniens. Et en effet, les Amazoniens ont une image du jaguar, par exemple, où ils peuvent raconter des sortes de fables, où ils racontent que le jaguar a pour habitude de tuer les animaux et de les ramener chez lui pour que sa femme, de les rapporter chez lui pour que sa femme les cuisine. Les Amazoniens connaissent bien le jaguar, ils savent très bien que le jaguar n'a pas ce comportement-là dans la réalité, et pourtant ils lui prêtent ses traits, et pour eux, ça dit quand même quelque chose du jaguar.
Oui. Voilà. Vous croyez qu'on peut relire, qu'il faut relire La Fontaine, Olivier Leplâtre, alors que l'écosystème est en danger, et que finalement ça va nous reconnecter par la poésie avec le monde de la nature?
Mais oui, pourquoi pas? Et bien un loup dans les fables de La Fontaine qui finit par penser qu'il vaudrait mieux se mettre à brouter de l'herbe. Alors après tout, ça recouvre des préoccupations contemporaines.
Merci beaucoup Alexis Broca. Merci. On donne rendez-vous à nos auditeurs en kiosque pour le numéro de novembre du magazine littéraire. C'est la suite de la Compagnie des auteurs sur France Culture, aujourd'hui consacrée aux fables de La Fontaine. Je suis en compagnie d'Olivier Leplâtre et je vous propose d'écouter dans une archive récente la voix de Jean-Yves Tadier.
Il y a eu des moments où il s'est exposé à des critiques très vives et même on peut dire que son rôle officiel à l'école a pu lui nuire, parce que lorsqu'on a voulu se libérer de l'enseignement scolaire, on se libérait aussi des fables dont nous imposait la lecture. Et ce n'était pas toujours d'ailleurs les plus belles qu'on nous faisait apprendre. Mais le proverbe ou la morale finale, c'est très intéressant, parce qu'on a l'impression que très souvent, c'est un exercice obligé. Exactement comme un grand compositeur qui fait des variations sur un thème, les variations sur un thème de Paganini, de Brahms. Brahms, c'est plus beau que Paganini. Et de même, La Fontaine, c'est plus beau que la morale. Et il y a même des fables où il ne prononce pas de morale tout à coup, tout en plaisantant lui-même. Donc, cette morale, on peut très bien s'en passer. Il y a d'ailleurs une chose qu'il faut noter. Vous savez que Marc Chagall a fait « Sans gouache » pour illustrer La Fontaine en 1926, à un moment où il voulait montrer qu'il n'était pas simplement russe, mais français, dans un pays où, assez curieusement, on a parfois une méfiance à l'égard des étrangers. Donc, il veut se montrer comme français, donc qu'est-ce qu'il choisit ? La Fontaine. Alors, les œuvres superbes qu'on n'a jamais montrées, toutes à la fois, et qui avaient fait l'objet d'un livre fait par Thériade. Donc nous sommes en 26, et Chagall ne sait pas très bien le français, il n'est pas assez à ce moment-là pour comprendre La Fontaine. Sa femme le lui lit, et il lui demande de ne pas lire la morale. Il dit « La morale, ce n'est pas fait pour moi ». Et l'illustration de Chagall, qui sont merveilleuses, La Fontaine sans morale, justement, mais à La Fontaine prodigieux et qui vaut bien tout le mal qu'en pensent les surréalistes.
Olivier Leplâtre, est-ce que vous diriez que les morales des fables de La Fontaine sont finalement un abaissement de leur qualité littéraire et qu'on s'en passerait bien ?
La réponse est peut-être plus compliquée, parce que La Fontaine le dit en 1668, hein, dans sa préface, il dit que parfois, il supprimera la morale. Bon, d'ailleurs, c'est la moralité, hein, exactement, hein, puisque le code de la fable, c'est un corps, La Fontaine c'est le mot qu'il utilise, c'est-à-dire le récit, suivi d'une moralité, c'est-à-dire donc la leçon que l'on déduit de la fable. La Fontaine dit, bon, cette leçon, quelquefois, je ne vais pas la donner, la moralité, je vais la supprimer, ou je la mettrai au début. Ou quelquefois, comme ça arrive, il en donne plusieurs. Quelquefois, il n'en donne aucune.
Ouais, donc, il se pose vraiment la question.
Ah, mais il se pose la question. C'est un lieu d'interrogation. Qui n'est pas simplement un lieu d'interrogation poétique. Que faire de cette partie de la fable? Est-ce qu'il faut la garder ou pas? Bon, ça devient vraiment un enjeu de réflexion. Et ce qui est très sensible, je crois, c'est que la disparition ou la complication de la moralité, ça engage un certain rapport à la vérité. C'est cette idée qu'après tout, la fable ne délivre pas une vérité définitive.
Pourtant, c'est un peu comme ça qu'on les lit hein, aujourd'hui.
Mais oui, mais on oublie de les regarder peut-être de plus près, et on s'apercevrait, mais d'ailleurs très vite, on citait la cigale et la fourmi, mais il n'y a pas de moralité dans la cigale et la fourmi. Déjà, dès le premier texte, ça fonctionne comme une espèce d'archétype, comme ça, hein, il n'y aura pas de moralité. Bon, parce que cette moralité, elle est plus compliquée qu'il n'y paraît. D'abord parce que aussi, c'est un énoncé de pouvoir, précisément, on parlait de pouvoir. Celui qui énonce la moralité profère une vérité définitive. Est-ce que c'est...
Il y a un refus de La Fontaine de prendre le pouvoir.
Est-ce que c'est cette posture que La Fontaine veut prendre? Je crois que non. Quelquefois, il la prendra, mais presque pour s'en amuser, ou pour y adhérer, mais avec distance, préférant bien plutôt la suspension de la vérité ou la prolifération des vérités à partir du récit lui-même. C'est ça ce qui compte pour lui. C'est que c'est désormais le récit qui est porteur de la morale ou des morales ou des questionnements moraux et non plus la moralité qui risque un assèchement, en fait, de la leçon de la fable.
Et puisqu'il va préférer peut-être à une position en surplomb, c'est une position que vous qualifieriez, Olivier Leplâtre, d'urbanité. L'urbanité des fables, c'est faire en sorte qu'elles accueillent le lecteur, qu'elles soient sympathiques aussi au lecteur.
Alors ça, c'est une dimension fondamentale du projet poétique de La Fontaine, c'est-à-dire que son projet poétique est aussi une sorte de projet éthique. Et on pourrait dire une éthique de la lecture. C'est cette idée qu'en effet, le lecteur doit être constamment associé à la construction du sens, à la production même finalement du texte. Cette idée collaborative, elle repose en réalité sur tout un contexte mondain, vous en parliez hier avec Mathieu Berman, c'est-à-dire l'associabilité comme une manière de partage, de vivre ensemble, qui s'oppose alors bien évidemment souvent au contenu même des fables, où au contraire on peut lire l'agression des uns contre les autres. Eh bien, la fable elle-même accueille une espèce de lieu d'hospitalité où, dans lequel généreusement le sens se donne et se donne à partager, se donne à transmettre de lecteur en lecteur, et chacun peut emporter un bout du sens, s'interroger, questionner, reconstituer comme une sorte de petite utopie, une sorte de communauté qui serait la communauté des lecteurs, dont les fables seraient les vecteurs.
Donc il y a comme un dialogue entre le lecteur et le fabuliste. En revanche, il n'y a pas beaucoup de dialogue dans les fables elles-mêmes. Est-ce qu'il y a une raison pour cela? Puisqu'il y a toujours deux personnages, on pourrait penser que le dialogue serait vraiment, stylistiquement parlant, le procédé le plus utilisé par le fabuliste.
Oui, alors le dialogue n'est pas si rare, hein. Il y a tout de même un certain nombre de fables, et elles sont relativement importantes, qui mettent en scène des dialogues. Ce qui est une sorte de prolongement aussi de l'idée qu'on développait tout à l'heure, c'est-à-dire les animaux qui parlent, mais les fables sans animaux peuvent comporter aussi des êtres humains qui échangent. Il est important qu'ils se parlent parce que la parole est comme le prolongement de cette agression des désirs qu'on évoquait aussi. Hein. C'est-à-dire que parler ne civilise absolument pas les rapports entre les uns et les autres, entre les animaux, entre les hommes. Au contraire, on a même l'impression que la parole rajoute de la méchanceté supplémentaire. Il y a comme une espèce de jouissance à être mauvais ou cruel à travers la parole.
Parce que vous dites que... Au fond, La Fontaine nous apprend, à travers justement cet usage de la parole, ce que parler veut dire. Et vous utilisez à dessein le titre du livre de Pierre Bourdieu. Alors, expliquez-nous, Olivier Leplâtre, en quoi La Fontaine est un auteur bourdieusien.
Je crois qu'il ne cesse de s'interroger en effet sur les conditions de possibilité de la parole et ce que la parole fait. C'est-à-dire, les fables de La Fontaine, c'est un formidable foyer d'exemples pour la pragmatique, la linguistique pragmatique. On y trouve les mille façons de se parler. Et ce qui ressort de cette animation de la parole, qui est toujours très diverse, hein, tout est toujours très divers chez La Fontaine, mais quand même ce qui ressort comme une certaine dominante, c'est que se parler, ça équivaut quand même à s'attaquer. Et s'agissant des animaux, ça équivaut à se manger. Alors on parle quelquefois pour...
On se parle avant de se manger.
Voilà, on parle avant de se manger, mais c'est déjà comme un peu apéritif. Mmh. Et se parler, c'est déjà voilà, se goûter l'autre.
Alors je voudrais qu'on écoute justement une nouvelle fable bien connue, qui est Le loup et l'agneau, puis vous allez nous l'analyser et puis expliquer un petit peu en quoi ça peut être un symptôme ou une illustration de ce qu'on vient de dire.
La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survient, à jeun, qui cherchait aventure. et que la faim en ces lieux attirés. Quitteront si hardi de troubler mon breuvage, dit cet animal plein de rage, tu seras châtié de ta témérité. Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant plus de 20 pas au-dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle. Et je sais que de moi, tu médis l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né ? Reprit l'agneau. Je tète encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point. C'est donc quelqu'un des tiens. Car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers, vos chiens. On me l'a dit. Il faut que je me venge. Là-dessus, au fin fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange sans autre forme de procès.
Le loup et l'agneau, lu par le regretté Jean Rochefort. Évidemment, quand c'est Jean Rochefort qui le lit, on frissonne, alors que quand c'est un enfant, on trouve ça très sympathique. Il fait bien ressortir, justement, par son interprétation, tout ce qu'il y a d'assez tragique dans cet échange de paroles entre le loup et l'agneau et Olivier Le Plâtre. Alors, est-ce qu'on peut en faire une lecture bourdieusienne ?
Alors, sans doute. Vous avez raison de dire que c'est une fable extrêmement, c'est une fable tragique, vraiment, exactement comme dans la tragédie, hein, tout est joué d'avance, enfin on sait bien de toute façon que ça se terminera mal. Mais ce qui est très étonnant dans cette fable, c'est qu'elle prenne le temps d'une fable. Car on pouvait s'attendre finalement à ce que le loup se saisisse de l'agneau et le fasse disparaître très rapidement.
Ah, et pourquoi discuter ?
Alors le loup discute, je crois, il discute pour avoir raison. C'est-à-dire il discute pour s'approprier le droit. Comme s'il ne se contentait pas tout à fait d'incarner la force, évidemment qu'il incarne la force, et l'agneau ne pourra rien contre cette force brute, et la fin montre bien que de toute façon, il n'y a pas d'échappatoire possible. Mais le loup a pris la décision, parce que la force ne lui suffit pas, que cette force sera légitime. Donc il donne des raisons à cette force. Alors évidemment, ces raisons ne valent rien, et l'agneau démonte les raisons du loup. Il le fait en croyant d'ailleurs que ça a du sens, et qu'il va pouvoir convaincre le loup. Mais comme les dés sont pipés, comme tout est joué d'avance, la parole de l'agneau, en fait, est une parole complètement vaine. Mmh. Et plus l'agneau parle, et plus, en somme, il se rapproche de sa mort, alors qu'il croit peut-être y échapper. Et au bout du compte, le loup assassine, hein, parce qu'on, c'est presque un meurtre. Hein, ça prend une densité humaine telle qu'on a l'impression que c'est un meurtre. Il emporte l'agneau au fond des forêts. Et la forêt est comme le ventre ou la gueule du loup.
Donc ce qu'il cherche à montrer peut-être, c'est en quoi la loi, derrière laquelle finalement le loup cherche à se cacher, en fait, il a quand même besoin d'avoir un semblant de légalité avant de croquer l'agneau, et c'est un procès qui se passe sous nos yeux.
Absolument, c'est un procès de campagne, c'est un procès à l'air libre, avec une formidable économie de moyens, il n'y a absolument rien, deux personnages, une rivière, et toute la question est là. Toute la question est de savoir si l'agneau empoisonne la rivière, l'onde du loup, ce qu'il ne peut évidemment pas faire, puisque l'agneau se trouve sous le loup, et jusqu'à preuve du contraire, aucun courant ne remonte. Donc, il y a une espèce d'absurdité. Hein. Ce que défend le loup est absurde. Et pourtant, cette mauvaise raison du loup l'emporte. Elle l'emporte parce qu'il a la force. Et le loup, c'est exactement ça, l'incarnation de la force qui se donne raison, même si cette raison est absurde, peu importe. On est là exactement au fondement même du despotisme ou de la tyrannie.
Donc là, on sent bien le pouvoir. Vous citez, en plus de Bourdieu, un autre penseur presque contemporain, c'est Foucault. Est-ce qu'on peut faire une lecture foucauldienne de cette fable, Olivier Le Plâtre ?
C'est un défi colossal.
Ou alors de manière plus globale, qu'est-ce que Foucault finalement pourrait dire ou a dit d'ailleurs, je ne sais pas, sur La Fontaine ?
À ma connaissance, je ne sais pas s'il en a jamais parlé, mais... C'est toute cette interrogation sur les fondements du pouvoir. Hein. Et cette interrogation sur la manipulation du pouvoir, c'est-à-dire cette façon qu'a le pouvoir de s'approprier un certain nombre de régimes disciplinaires, un certain nombre de régimes légaux, c'est-à-dire de mettre la main sur les institutions pour justifier sa seule force, enfin. Un penseur aussi contemporain très intéressant qui est Louis Marin est revenu sur ces fables. Lui, alors vraiment, a parlé des fables de La Fontaine et dans une logique qui est assez proche, hein, il s'est beaucoup interrogé sur ces questions-là, sur la question du pouvoir, sur la question de la force, estimant que, à juste titre, qu'une force après tout rencontre toujours une force supérieure. Alors bien sûr, dans le cas du loup et l'agneau, l'agneau ne peut rien. Mais le loup pourra très bien rencontrer plus tard, et ça arrivera dans les fables, une force qui lui sera supérieure. Donc il s'agit aussi de pérenniser la force. Et c'est cette pérennisation de la force qui la transforme en réalité en pouvoir. Le pouvoir, c'est au fond la force qui se donne une certaine durée. Et pour se donner une certaine durée, il faut s'y associer la loi. Il faut que la force associe la loi pour que la durée de la force puisse avoir lieu.
Alors, il y a un contre-pouvoir dans les fables, nous expliquez-vous, Olivier Leplâtre. Et ce contre-pouvoir, c'est le plaisir, voire même l'usage des plaisirs, comme le dirait de nouveau Michel Foucault, que vous n'hésitez pas à citer aussi dans cette acception-là. En quoi le plaisir est-il un contre-pouvoir ?
C'est un contre-pouvoir formidable. Pour La Fontaine, tout doit être plaisir, enfin, tout doit finir en plaisir. Et la fable elle-même, c'est l'expression de ce plaisir. Et c'est ce plaisir offert aussi au lecteur. On disait ça tout à l'heure, on disait l'utopie, la communauté des lecteurs. Cette communauté, elle se fonde sur le plaisir. Alors, pour faire contrepoint précisément à cette violence, à cette sorte de sauvagerie que les fables comportent, il y a très régulièrement des moments de plaisir. Alors ça tient à des petites choses de la vie, et ça tient en particulier aussi à la gourmandise. Il y a beaucoup de petits moments gourmands chez La Fontaine. Un rat qui découvre une huître, et puis alors en voyant cette huître, il la trouve alanguie, il la trouve magnifique, blanche, séduisante. Et puis l'âne aussi, qui a envie de croquer des chardons, le lièvre qui veut manger des choux, ou le singe et le rat qui font griller des marrons. Alors ça suspend la violence un temps, parce que dans le cas du singe, c'est le singe et le chat. Dans ce cas-là, la fable se termine mal, se termine par un rapport de force et un travail de la domination. Mais il y a eu un petit moment d'extrême plaisir, qui était un plaisir extraordinairement sensible. Et les fables sont remplies de ces petits moments sensibles, et la fable elle-même est pensée par La Fontaine vraiment comme un moment de sensibilité. Mmh. D'ailleurs, il choisit le vocabulaire, on en parlait aussi tout à l'heure, on disait le corps. Il dit le récit, c'est le corps, mais voilà. Dire d'un récit que c'est un corps, c'est tout de même aussi dire quelque chose de l'incarnation du plaisir.
Donc La Fontaine décrit la violence, mais travaille à la paix, et travaille aussi à la paix de l'esprit de son lecteur. Il y a toujours cette espèce de double mouvement, et c'est aussi l'urbanité dont on parlait tout à l'heure, l'espèce de grande douceur de ces fables, et la violence de ce qu'elles peuvent dire. Donc la paix, c'est le but quand même à la fin.
Oui, certainement, une forme d'apaisement civilisateur. La Fontaine se dit bien de fable en fable et de recueil en recueil que ces fables ne serviront certainement pas à corriger les hommes, parce que l'homme est homme. Et il a des fables formidables là-dessus, comme la besace, par exemple, qui raconte comment on trouve des défauts formidables aux autres, mais qu'on est absolument incapable de les voir en soi-même. Donc La Fontaine pense que l'homme n'est pas réformable, fondamentalement pas réformable, mais que peut-être il existe un espace possible, un espace de bonheur possible, car la question des fables, c'est aussi la question du bonheur, du plaisir et du bonheur. Et cet espace, c'est, je crois, l'espace de l'écriture et de la lecture ensemble.
Donc ça passe par la culture.
Ça passe par la culture, ça passe par la connivence, par la complicité, cette façon qu'a la fable en permanence de solliciter son lecteur, mais directement, c'est-à-dire parfois même en s'adressant directement à lui, et puis en éveillant chez lui, à la fois l'intelligence, et cette intelligence, elle ne peut venir que du questionnement infini, sans réponse définitive, et de cette espèce d'incarnation partagée des fables, cette façon qu'ont les fables de nous parler du monde, mais du monde vraiment tel qu'il existe, le monde concret.
Parce qu'il y a toujours la pensée, l'intelligence, mais il y a aussi toujours le sens, la sensualité. Oui. Et vous dites que la fable est proche, de ce point de vue-là, des haïkus japonais.
Oui. Alors, c'est un peu excessif, peut-être, mais il y a quelquefois, dans les fables de La Fontaine, dans la façon qu'a La Fontaine de pointer quelque chose, un détail, un petit événement du monde. Et il y a dans cette façon-là, je trouve, hein, une petite proximité avec le haïku, la netteté du détail, la netteté de la sensation définitive.
Et aussi au sens où le récit de la fable s'abstient de tout autre effet que le seul enregistrement, et là je vous cite, du tressaillement des sensations.
Oui, le tressaillement des sensations. Je crois que les fables, en effet, cherchent ça, vraiment. Hein.
Est-ce que, et ce sera la conclusion de cette émission, est-ce qu'il y a aussi un grand mouvement de liberté qui est induit à la lecture des fables, cette sensation de liberté, est-ce que vous la ressentez en lisant les fables ?
Mais c'est-à-dire que vraiment c'est un texte de liberté absolue, de bout en bout, dans la façon qu'a La Fontaine de reprendre la question des fables et toutes ces fables qu'il connaît, que nous connaissons tous, qu'il avait en tête, Ésope, Phèdre, il les prend et librement il les réécrit, il en fait absolument ce qu'il veut. Et cette espèce de projet poétique libre s'accompagne, je pense, d'un projet éthique de liberté.
Merci beaucoup Olivier Leplâtre pour cette analyse des fables de La Fontaine, analyse sensible. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, eh bien, ils peuvent se procurer votre essai de lecture commentée des fables paru dans la collection Foliothèque en 1998 ou bien, et en même temps, l'ouvrage que vous avez signé aux Presses universitaires de Lyon en 2002 intitulé « La parole et le pouvoir dans les fables de La Fontaine ». Demain, pour le dernier temps de notre semaine consacrée aux poètes, eh bien, c'est Jacques Reda qui viendra nous parler de ses textes préférés de La Fontaine, mais tout de suite, c'est d'une poétesse dont on va prendre des nouvelles, en l'occurrence Marina Tsetaeva, dont les poèmes sont interprétés aujourd'hui par Jacques Bonafé.
Bonjour, bonjour la compagnie venue de Russie, l'amour. Je ne parle pas du fleuve, vous allez me suivre. Comprendre, c'est étreindre ou embrasser, disait en substance Tsetaeva. Je parle d'un amour à l'air libre, sous le ciel d'un amour libre, écrit-elle à Anna Teskova, sa confidente de toujours, d'un amour secret, non mentionné dans les passeports, le prodige du prochain. Dans son amour des mots, l'amour de Marina est souvent allé au mot d'amour, comme s'il y avait un lien irréductible entre l'amour de la parole et la parole d'amour. Ce sont les mots de Zeno bien eus dans la préface d'Insomnie, parue chez Poésie Gallimard. Chanson. Hier encore, ses yeux cherchaient les miens. À cette heure, son regard est ailleurs. Hier encore, chez moi jusqu'aux oiseaux, l'alouette à cette heure, mes corbeaux. Moi, je suis niaise, tu es l'esprit, je suis inerte, toi, tu es la vie. Oh, le cri des femmes de tous les temps, mon bien-aimé, qu'est-ce que je t'ai fait ? Larmes et sang pour elles sont de l'eau, elles se lavent dans le sang. Les larmes, l'amour est une méchante marâtre, n'espère de lui justice ni grâce. Les navires emportent les amants, la route blanche avec elle les mène, et la terre entière gémit. Mon bien-aimé, qu'est-ce que je t'ai fait ? Comme si le poème pouvait vraiment dire l'amour, comme si le poème transmettait le souffle même de l'amour de Marina Tsetaeva. Là où chacun est bave et bosse, j'en sais un qui a même force. Là où tous n'ont que vains espoirs, j'en sais un qui a même pouvoir. Là où tout n'est que rouille et rance, toi seul tu es de même essence. Ça c'est en juillet 1924, mais il y a aussi tentative de jalousie, tentative d'un poème qui commence par « Comment ça va auprès d'une autre ? Plus facile, non ? Coup de rame, en peu de temps telle une côte, le souvenir de moi s'éloigne. De moi restée île flottante, le long du ciel, pas sur les eaux. Âme, âme, non pas amante, mais sœur, oui, vous serez plutôt. Comment ça va près d'une simple femme, sans vraie divinité, ayant jeté du trône Olympe votre reine sans y rester ? Comment ça va, ça se démêle, ça se blottit, puis au lever et le tribut de l'immortelle trivialité, dite pour vrai. Doux, doucement, léger, légèrement, quelque chose a sifflé dans un pain, J'ai vu en rêve un enfant aux yeux noirs. Ainsi perle sur un pain rouge la résine ardente, ainsi dans ma nuit splendide, une scie me passe sur le cœur. C'est écrit en août 1916.
Merci Jacques Bonafé.